La parole et l'écoute, session 3, samedi 23 mars 2019, à Bagnolet.
On va commencer la deuxième partie de la journée. Et cet après-midi, ça va être principalement des temps de lecture. Donc, j'ai invité plusieurs poètes à vous lire des choses qu'ils ont écrites. On va commencer avec Rosanna Puyol, ensuite Claire Finch, Tarek Larissi qui n'est pas encore là, et Théo Robin Langlois. Et il y aura aussi une performance de Signe Frederiksen. Mais je vous dis pas trop quand parce que dès que c'est que ça, je vous surprenne. Alors faites attention d'ailleurs. Donc voilà.
Lecture par Rosanna Puyol.
J'ai rendez-vous avec Adrien Gentil dans un café où l'on se rencontre habituellement, à l'angle de la rue du Maroc et de celle qui va vers le métro Crimée. La rue du Maroc longe le parc qui longe les rails d'après la gare, du nord, de l'est. Le café est face à l'une des entrées du parc, qui est plutôt une promenade. La vue est dégagée, il y a le bâtiment d'une école pour adultes qui ressemble à une ancienne douane. Je vois qu'il y a un autre café à l'angle d'en face, mais il est moins clair. J'écoutais hier une commissaire parler de Paul Robeson, ce chanteur, acteur américain des années 20, qui est devenu activiste, communiste, un homme carrefour des luttes, disait-elle, un homme tout monde. Il se battait pour les droits des Noirs, les droits des ouvriers, les droits des Juifs, anticolonialistes, anti-impérialistes, avec sa femme, l'anthropologue Eslanda Robson, aux côtés de Dubois, Langston Hughes. Il parlait tout un tas de langues. C'était là son lien avec l'Afrique, où il ne s'est rendu que deux fois pour des tournages. À SOAS, à Londres, il apprenait par exemple le Yoruba. Il parlait aussi le russe, le français, chantait en chinois et en yiddish. Le café fait l'angle avec la rue d'Aubervilliers, ce n'est pas très loin de chez moi. On discutera d'une possible collaboration pour un projet à Bagnolet, un lieu d'exposition dans l'atelier de Grishka Komaret, à Bagnolet, près de Montreuil, avec deux autres artistes. Ils ont déjà fait une exposition. Au même endroit, je fais une lecture en mars. La commissaire Marion Vasseur-Ralui m'a invitée avec Tarek Lacrissi, Théo Rambin-Langlois et d'autres. Ce que tu veux dire, c'est que tu lui pourris la vie à notre fille. Je suis chez ma grand-mère, elle est couchée, j'attends qu'elle se réveille pour faire pipi. Je n'arrive à rien faire d'autre que de penser à la décoration. Je ne lui ai pas servi d'eau avec le dîner. J'espère qu'elle pissera moins. J'imagine les travaux des petites pièces, la salle de bain, mettre de nouveaux carreaux, la cave, à transformer en chambre. Il faudra recouvrir les murs de chaux peut-être, tout en arrondi les formes du mur, au plafond, au sol. Deux tables de nuit en niche, de chaque côté du lit, sur une sorte de scène. Il n'y a qu'un paravent, à part le lit et l'armoire. Il n'y a pas de fenêtre, on ne fera qu'y dormir. Il faudra mettre une lampe au plafond, il y en a déjà une. J'attends que tu arrives, la chatte miaule plus fort. Deux vieilles chattes, une jeune chatte, dans l'appartement. De la nourriture pour chatte, de l'eau, de quoi se laver et s'habiller, du chauffage, de la moquette, des miroirs, deux canapés face à face, des lampes basses, des livres, une télé, des petites sculptures et statuettes, des vases, un néon rouge, des peintures, des photos, portraits de deux enfants un peu plus grands, des tapis, des malles, des magazines L, des mouchoirs, des chocolats, des pastilles, des fleurs, la vue des plantes au balcon, le passage des scooters rue de Rivoli, le chauffe-eau. Appartement familial, appartement du Marais, appartement de juifs, appartement de vieilles, appartement de françaises, appartement de chattes. Appartement de passage, de visite. La fille, les petites filles, l'ex-mari, les petits copains des petites filles, les copines des filles. Appartement dont tout le monde a la clé. L'aide-soignant ce matin avait oublié la clé. Vous pouvez vraiment pas nous ouvrir? Quelle misère, quelle souffrance. Drinking coconut water d'ici là, dans un instant du temps. The day I get back to Trinidad, my people will be glad. What I need is drinking coconut water. I cannot get it in America. J'ai peur d'avoir mal, elle a découvert le rêve, elle respire fort, sa poitrine se soulève haut, les doigts remuent, les paupières clignent légèrement, restant fermées. How do what I think I know makes me happy? Quand ils nageaient tous les trois, la souffrance c'est terrible. Pipi. Relief de fer sous ses joues lisses et roses, une patte me pousse. Un monsieur, la promenade, te souviens-tu comment meurt ce petit renard? Audrey, I to be. Contre d'autres portes, d'autres appartements, ceux-là contiennent des livres, de la musique. Des grandes images, mots aux chaudes sur un sol en pente raide, ras, lent, ti, sans. Né en 1928, nous sommes en 2018. La forme d'une larme, événement, première coupe autour duquel s'enroule le jean et entreprend des explorations morphologiques. All over my nose, see all these people over my nose. Un paysage de visage, apparition de la monnaie. Elle contient l'abstraction. Tout le monde est bien d'accord sur le transport des animaux vivants. Il faut propager et mettre en place. Un canapé devant la porte, réveillez-vous, je ne comprends pas. Il prenait un café et restait 3 heures. Au lit, le soir, après minuit. C'est toujours la même chose, me dit-il, les mêmes positions. Je n'ai pas envie en ce moment, respecte ça. Moi, de moi, j'en ferai tant, sur toi, lèche-moi. Ces humains, qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. On vit dans un monde de fous, tout est comme ça et après les gens... Ah, je suis malade, moi aussi, tout à coup. J'ai eu très froid, j'ai pas l'habitude quand t'es malade. Enfin, je suis malade, c'est le corps qui est malade, c'est pas la tête. Elle m'avait envoyé du miel et la tisane, et ben dites donc, en une semaine, le problème a été réglé. Il y a une herboristerie à Annecy. Il est joli ce visage, il est bien fait, il est bien peint. Tu n'aimes pas la peinture? Je te pose la question. Je sais pas, je te pose la question. Oh, t'es hargneux aujourd'hui, loulou. Il disait toujours « Pourquoi tu ne te remets pas au dessin, à la peinture ?» Je sais qu'il a un appartement provisoire et qu'il va passer son permis. Je vais me faire une tisane de thym, ça fait du bien. Un corps, a body of water, potential to do so much, yet eventually, I stand at the edge of where the ocean meets. J'en sens l'eau, j'en ai sous l'eau. Suivez-moi, je suis le savant, le rat. Dehors, il fait jour et lumineux. On entend un peu les voitures passer plus loin, rueur des nerfs et les oiseaux. Des pompiers, des gens en bas. Je me demande si c'est bon pour le lilas sur le balcon. Les nuages sont comme 2 gros doigts. Il n'y a pas un coin de bleu du ciel. Toute la perspective est blanche et grise. Des nuages, des nuances, reliefs qui passent doucement, des films, chacun avec un début et une fin. Manifeste-moi, fais tomber les autres que je n'aime pas de mon visage. Barre-moi, qu'est-ce que cela changerait en moi ? Fiche-moi là, de ceux qui sont, de ceux qui disent, et pensent que tu n'as pas envie d'en avoir une, d'en passer une. Mais quel malheur, tu es dingue, quel bonheur. Et de regarder par la fenêtre, ou de regarder en bas, en dessous la table, ou le carnet, ou le livre. Le savoir à elle, comme c'est le contraire de moi de l'aimer elle. Il me pousse, une fleur dans le cul, par le trou, passe la tige, depuis la terre, de la merde. Dans tout mon intestin, les racines habitent, sédiments sacrements. Sifflement de la flûte qui est aussi sortie de mon cul avant la fleur. Le manuel d'un cœur en miettes, cerveau, berceau. N'est-ce pas compliqué de tisser, d'aimer, de parler, d'écrire, de voir seul ses orifices, de se servir dans la puissance et la liberté qui consiste de la peau sur les os, le sang, le battement. Il me donne soif et l'impression d'être folle, de se sentir si bien, si importante, majeure. Parce que je sais que ma pensée, mes sentiments tendus, allumés, l'électricité qui passe, ce n'est pas si souvent que je me sens reliée. Ce moment fait comme une totalité. Très angoissante. Totalité. Me penche au cahier, des pieds aux orteils levés, des fesses enfoncées sur la chaise, je suis penchée en avant. La chatte étalée contre le matelassé de la chaise, les bras posés, dos cambré, bras gauche solidement ancré, coude et avant-bras posés. Main droite, tiens cette voix, bouche bien crispée. J'ai lu et écrit toute l'après-midi, 4 pages, très courtes. Mimi, la surveillance est ingérée. Tu peux, please, te retourner ? Imite l'anthologie, l'essai de vagues s'étend. J'écris 4 pages après que t'es soit parti. Chris Krauss raconte que Cathy Acker écrivait au moins 4 pages par jour. Mais il revient bientôt, tout va changer. Alors je vais arrêter de travailler, reprendre des études, me concentrer sur l'écriture, où c'est une bêtise. La société est mieux transformée. Sur le canal de Tottenham, il y avait des cygnes avant le club de canoë. Cette rive me rendait triste toute la ville de Londres. Je la croyais écorchée ici, l'herbe déplacée, renversée, de la boue desséchée, des bateaux, une monstruosité. J'y allais, j'ai même me promener entre les usines, l'odeur fumée, la décharge, sous le tunnel, à l'entrée du parc, à gauche, à droite, des enclos, de jeunes airs, de pique-nique. Traverser un match de foot, arriver au quai, espérons qu'il n'y ait pas de chien sans laisse. Les questions, je crois, enlèvent toutes les transformations. Peut contenir le contrôle et la liberté, micropène, refill, contrôle liquide. Quand ils nageaient tous les trois, la souffrance, c'est terrible. Pipi.
Merci. Lecture par Claire Finch.
Need, or love, by which I mean sex and philosophy, has no beginning nor end, but there's a cumulative effect. Judith, if every narrative comes from somewhere, speaking in terms of the historical present, then this one comes from you, or love, or democracy, or something that bounds the subject and makes the I different than the iterative. I mean, I totally loved you. And I'm still thinking about it now, because if existence is relationality, then we never really lose any part of anyone we ever knew. Politics are something to this effect. This voiding is for you. And the after. Every day, I wake up knowing that what I don't know is greater than every experience I've ever had. The horizon is the horizon because it's endless, and our democratic hopes are totally useless because impossible. I won't ever let anyone tell me that debate isn't worth it. Hope is accumulative. We are the residue of a lot of other people's decisions, but unimagined electricities happen anyway in between. Oh, and I wish you'd give me back that copy of Nightwood that you borrowed in 2013. Best, Wendy. Two tenured professors fell in love. They break up. Can philosophy explain feeling? Can radical democratic theory decipher that specific feeling when the thing has gotten out of control? A philosopher of political democracy, Wendy Brown, falls in love with another philosopher of political democracy, Judith Butler. The second philosopher, though often reminding us, slash the public, that she's actually specialized in political democracy and the social prescriptive potential of citizenship and nationhood, she reads, for example, Hegel and Arendt and Simone Weil, got famous when she was younger for her contributions to what later became the field of queer theory. So she's always thought of as more of a gender theorist. There's this one word that's often associated with this earlier work, it's performance, and she worries all the time that she'll never get away from this word. The actions of bodies haunt her. She's terrified that, regardless of personal practice, she's actually a performance theorist, trapped under speech acts. She has nightmares in which enunciation figures prominently. This is not the main reason that they broke up, but it might have something to do with it. Wendy is both a mother and a philosopher of political democracy, so this puts her in the difficult position of being obligated to support very many things, such as the political futures of her country and the ego of her girlfriend. Intimacy is the moment when logic gets completely separated from what the body wants and does. Wendy finds herself crying at night as a way to get Judith Butler to open up to her. Judith can't stand it when Wendy cries in front of her. She knows that it's nothing to complain about, but honestly, it was difficult getting so much critical recognition. And this means that she really needs a partner who's solid, someone who keeps her weaknesses to herself. As Judith explains to their couples therapist on alternating Thursdays, she both craves and avoids intimacy, even though she suspects that she wants intimacy very deeply indeed. Perhaps more deeply even than she wants to be recognized for her contributions to the canon of critical work that interrogates the inscriptive potential of citizenship. This breakup is very painful because somewhat public. On a personal level, Wendy, despite having built her own career separate from Judy's, keeps finding herself in a weird codependent role play. Wendy feels like she can't express her desire. Judith feels like every expression of Wendy's desire is too much. Like drag, it exceeds the codes of the subject. If you were to get unlimited access to their couples therapist files, you might read that these are two people who operate via very different semantic polarities, even if they share a same affective intersection known as fisting or love. They came together across a shared semantics of democracy, but then less academic polarities come into play. Dominant versus dominating, brave versus needy, philosopher versus graduate student, mother versus child, fun at parties versus not. Also, Judith's philosophical training was in German, while Wendy's was in French. It's morning, and Judith and Wendy tried to fuck last night as a way to confirm their intimacy or maybe their incompatibility. Wendy got her entire fist inside of Judith's cunt, but then Judith couldn't come. Wendy came three times, but it was always easier for her. Judith really needs trust to come, and now that trust between Judith and Wendy is more opaque than transparent, Judith can't come at all anymore. Wendy takes this as a sign that the relationship has passed that point of irreversible decline. It's difficult not to think teleologically when you're in love or afraid of abandonment. Wendy tells Sarah Ahmed over glasses of Pinot Noir that she's certain no relationship ever really declines, just complicates, but confronted with her own emotional limits, she's not sure if she believes this. Theories have their own will. Judith has a hard time accessing her emotions, and so she knows without knowing that the normative narrative arc of the relationship is up. Whatever comes next will involve renegotiating contracts of care. But as Sarah tells Wendy, even if her ascendant in Cancer and moon in Leo means that she can sense something Judith isn't ready to express, it's bad ethics to force intuition on someone who's just not ready. They order a new round of Pinot Noir. The kitchen of the house in Berkeley that Judith and Wendy remodeled together is full of golden dust motes, pirouetting happily in the sunbeams that loll on the granite countertops. The smell of tofu bacon is pervasive. Judith gets a cup of coffee and sits down at the refurbished farmhouse table across from Wendy. Wendy's body reacts to the physical proximity of Judith like an electric shock. Lichtenberg figures are snowflakes of branching electricity. You can't see them, but they're everywhere. And Wendy jumps up from the table and lurches to the coffee maker. She pours herself another cup of coffee and tells herself that she's being ridiculous. She takes a deep breath and moves back to the table where Judith is sitting. She sits at the head of the table in the chair that is next to, but at an angle to Judith, without being directly next to or across from. I've been wondering, Wendy tries, if we should use the word mutation or revolution. She was reading Lucretius while waiting for Judith to come down to the kitchen from their French countryside style master bedroom. What I mean is, should we try to reclaim the word revolution's history in atomic philosophy and astrophysics in order to invest mutation as a political alternative? Judith starts loudly doing the dishes. Grief makes Wendy persistent and also totally unwilling to read social cues. She continues, I watched the first four seasons of RuPaul's Drag Race last night when you were sleeping, and I couldn't stop thinking about that word, mutation, and how it has so much potential when we're talking about techno-corporealities, mutation. But then I was thinking, and replacing revolution with mutation, are we simply reinvesting, or worse, propagating a pre-democratic, specifically feudal or monarchist way of thinking? Should we actually defend the linear and the dialectic as necessary to a democratic project? Is mutation such an attractive concept because under neoliberalism it allows us to give political agency to the existing democratic organization, justifying a gradual morph towards oligarchy? Or can it, mutation, mean something new in a xenofeminist moment of alienation and failed? Here, Judith shudders. I mean, capital complicit political critique. Judith puts her head in her hands. Her gray bangs fall over her fingers. She sighs. Now you're just being provocative. You know how I feel about it because of my early work in Hegelianism. Wendy describes this moment later as falling into that regressive, affective gap where the logical mind watches the emotional self take over entirely, both relieved and helpless to intervene. Wendy. Yeah, but I don't think you understand what I'm saying. I mean, not really. I'm saying I think we need to look at different sources, not Hegel. I want to look maybe into fiction or into British anarchist history. Judith lunges for her keys in her leather jacket and heads for the garage door. I just can't, she says, as the door shuts behind her. Why do you always have to be so provocative? After the noise of the car engine dies away, Wendy pulls tarot cards. The first figure that she pulls today is the Empress. This figure represents her. She hates the emotional affiliations that this card has accumulated, but she does agree that in most decks, the depicted figure is dressed well and seems fun to hang out with. She pulls a card to represent Judith. This card is Justice. Wendy hates this card. End part one. Begin epistolary narrative. Time range. Wendy is still sad, but dating around. Dear Judith, if literary history has taught me anything, it's that a female voice has no authority. I mean, my voice, if I'm speaking in terms of literary tools, has no authority. Clarice Lispector's Agua Viva started as a huge autobiographical project named Loud Object, hundreds of pages. She worked on it for years. It grew huge. In the newly released English translations of her main fiction works, this guy writes that Loud Object was at times brilliant and inspired as the work of a great genius, but at other times it was as dull and uninspired as a housewife's neighborly chit-chat. Because of course if you're a feminine person writing long experimental texts, then it's always just like one word away from femme au foyer. And the descriptive encounters of this femme are necessarily, historically speaking, dull. This morning I was manically cleaning. You know how I hate to clean because it makes me feel gendered. But I hate disorganization, so I was trying to get it over with fast. I dropped a giant casserole dish on my coffee maker and smashed the carafe. It's okay, though, because everything important was written on Benzedrine. Yesterday, I saw the filmmaker again. I met him a long time ago at that dinner party we went to in Silver Lake. I was too tired to be fucked. I mean, I knew that I definitely wouldn't come, so I fucked him first. Some people always want to fuck first, or they want to be fucked later so that they can come last. I fucked him for an hour, first with the pink dildo, longer, then with the black one. He wanted me to slap his face. He showed me how to hold my hand so I could slap him better. I tried, but I had a hard time doing it. There's something that I can work on. Slap, then caress. One part of the cheek exactly. Hand a little open. Caress after. A change in the intensity of the slap. Clarice Lispector turned Loud Object into Agua Viva by a process that she called drying out. She removed almost every autobiographical I. But there are a few that outlasted the cut, and I like to imagine that that's what loud object would have read like. There had never been so many paths. We spoke little, you and I. I don't know why the whole world was so annoyed and electronically able. But able to what? The body heavy with sleep, and our big eyes inexpressive as the wide open eyes of a blind man. On the terrace, the fish was in an aquarium, and we drank juice in that hotel bar overlooking the landscape. With the wind came the dream of goats at the next table, a solitary fawn. We looked at our glasses of ice-cold juice and dreamed statically inside the transparent glass. What did you say? You were asking. I didn't say anything. Days and more days passed, and everything in that danger and the geraniums so scarlet. Caress, then slap. I had a hard time getting the aim right. I kept slapping him too low, too close to the jawline. Then I made a really stupid joke about not being athletic. I guess too close to the jaw is better than too close to the nose, but I still don't think he enjoyed it very much. I'm better at other things. The scarlet of that geranium. I want it all electric, but when you start to sleep with someone for a long time, habit turns solid around the same acts. I was too tired to dream up any scenario. Sometimes planning good sex feels like a full-time job. And I'm already giving 4 seminars this semester on sovereignty and border walls. I need someone else to help me. I mean, I need to learn something new. Although I did learn from him how to put 4 fingers into his cunt and punch his cunt with my hand. I think you're into emotional sex, he said to me. I mean, it's true that I like some level of intensity, and it seems better if it has an emotional component, but did I learn that from the political theorist? More on her later. Or did that come from me? The political theorist would always stare at me so intensely when we were fucking, like it was the most serious thing that we could be doing. I felt like we were crossing into something. I was scared of the ritual. Superstitiously, I wondered, were we making something that couldn't be unmade after? You fucked me for an hour, the filmmaker said. You destroyed my pussy. What did you say? He said, I'll be feeling this for days and thinking of you. I still need to get a new carafe, but in the meantime, I've been drinking instant coffee, and I actually like it. Dear Judith, repetition formalizes desire and dissolves narrative. Dear Judith, listening to Cyndi Lauper can be really calming. The city declared that the pollution is so bad that we shouldn't go outside, but I go outside anyway and breathe in some smog, and I can't stop thinking about you. Thinking about all the carcinogens made me anxious, so I took some Xanax. But when that didn't work quickly enough, I spent 10 days fucking the political theorist. The city would be happy because at least we were fucking indoors and not in the park next to the French people in their weird 80s athletic wear. Then the political theorist went back home, and on the last morning after she left, I watched over the dildos, lying on the bed where we had thrown them. Maybe there's a future spelled out in the shape of fallen cocks. So I left them there for a while in order to let this possibility invade whatever the now is. I was trying to foreclose the past. Then I washed them off, but I still need to boil them. Right now they're rolled in dish towels, sitting on a stack of books by Monique Fatigue. I need to boil them. I need to read that book that Teague wrote about Nathalie Serrault. I need to read Nathalie Serrault. I still have no idea what nouveau roman means or designates, although every time a French girl says those words to me, nouveau roman. I know, and this seems to create a complicity. Listening to Cyndi Lauper tonight, I realized that all form is a reflection of political actuality, that form becomes recognizable as such when we have the temporal knowledge to understand this organization. Organization makes sense out of time. It is bound by time and so reflects it. With Cyndi, we start to get out of time, time after time after time after. The political theorist is incredible because she can take bigger, then bigger, then bigger cocks, time after time after time after. Lying in my bed, I hear the clock tick and I think of you. Her pussy is elastic. Her pussy is amazing. Her pussy expands. Her pussy has no limits, or none that will reach tonight. Time after time after time after. I go slow. All was left behind. The second hand unwind. I press the base of the cock against the edge of her cunt. This cock is long and I know it, so if I'm pushing the base against the edge of her cunt, then she is feeling it hard time after time. Go slow. We size up again. With each new cock, a new insertion drama. The establishment shot, my favorite part of every narrative. Go slow. I fall behind. The second hand unwind. Each time I put my hand against her cunt where the cock just was, I feel it under my hand. I love it in that instant. I love her cunt under my hand. And my other hand gently puts lube on the next cock, gently coats the cock, gently puts the slippery head soft against the open cunt, gently after time after push so slow you fall behind. The second hand unwind, gasp again, gasp when it's full in. I love this throbbing under my hand. This must be what tenderness feels like. Is this? After time, cunt throbs against my palm. More again, you say, you're ready, go slow, I'm gentle. You say, time after time after. Dear Judith, I got the bigger black cock in San Francisco when I was still fucking Ann Garetta. I left the rubber rings that attach it to the harness in her apartment, so I guess I'm never getting them back. I mean, I could call her, but that book she wrote. Imagine closely the value associated with different registers of experience. I'd rather not call her. The dildo is what exists before and after the relationship. If I'm feeling romantic, maybe I'll say before and after love. Judith, you've been sleeping in your apartment in New York. You're not in Berkeley, but I still have all of my cocks, so I guess I have as much as I had before I met you, nothing less. I fuck myself first with the purple cock that's pretty thin, that ends with a bulb like a flower that angles up. It's hard silicone, no alternating cores, simple, it's light, and I can move it easily. I press hard. After a while, I get the bigger black one. It's not the biggest cock I have, but it's the straightest, and it's pretty hard. The anticipation is immediate when I start stretching my cunt. It feels so good. I try to hold the cock low, exactly in line with the line that goes from my throat to my cunt, angled up a little if possible. It's hard, and my wrist hurts, so I shift up, lay on my knees, my forehead on the floor. My hand holding the cock and fucking myself from behind, moving my ass into my hand so I can get more leverage. Here, I can go faster. Here, it's almost immediate. The orgasm starts to swell, that building feeling coming towards my clit, but deeper still. Not just clit, it feels like my whole pelvis, my asshole, perineum go deeper. Something off the surface in that undefined space drawn as a black cavity in medical textbooks. I want to experiment with squirting, so I want to stretch the time out here, but I can't hold it. That feeling grows and invades, so there's nothing I can do because it's already as high as my neck. I let myself go. Push down. Even though I don't squirt, it's good. It lasts maybe 12 full seconds. I mean, that doesn't seem so long, but count to 12. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and imagine hard coming all that time. I want to work up to more time, so I take the cock out and I shudder more. I push it down and it keeps going, feeling spreads from inside my pelvis. Down as far as my knees and up to my neck. I feel it in my stomach now. I think I heard this from that literature professor friend of yours, the one who's always wearing turtlenecks. He said to me once over Campari sodas that one text equals all texts and one need equals all needs. I think I'd like to talk to you soon, Judith. I think I'd like you to call me. And I'm pretty sure I'll answer if I know it's you. Love, Wendy.
Lecture par Tarek Lakrissi.
Moi, je vais dire 3-4 textes en français. C'est toujours un peu intimidant de passer après Pierre. Mais bon, c'est en même temps vraiment chouette. Le premier s'appelle Mimétisme. C'est peut-être par mimétisme que je me suis rasé la barbe pour me laisser uniquement une moustache plus ou moins bien taillée. Celle qui me rappelle un peu de sa bouche, de son goût qui me distingue un peu des autres dans la rue ou dans mes souvenirs. Je passe devant le fleuriste au moment où cette pensée ralentit la cadence de mon pas. Des fleurs me regardent d'un air inquiet. On ne te reconnaît pas, tu sais, tu sembles comme différent. Il parle à voix haute dans la rue, il ressemble à Kate Bush dans une robe rouge. Il était assez fatigué la première fois que je l'ai rencontré. De Beyrouth, il m'avait écrit sur Messenger, très poli, si je pouvais l'héberger ou non. J'avais accepté parce que je voulais baiser, mais j'ai agi comme si je faisais une super bonne action. De l'aéroport, il est venu chez moi en taxi. Sa moustache donnait un air drôle, un drôle d'air, comme s'il venait d'un autre temps. Un chanteur ou un acteur, Farid Al-Atrache, un chanteur des Égyptiens des années. Très réservé, une chemise démodée, un short gris, des bottines grises, il buvait son verre d'eau doucement. Son regard avait plein de choses à dire. Je suis vite tombé amoureux dans son verre. La nuit dernière, j'ai fait un drôle de rêve. Je rêvais de faire la couverture d'un grand magazine français. Et ensuite, j'ai rêvé d'une pyramide en or, avec à l'intérieur un œil qui grandissait. Ça m'a réveillé d'un seul coup, c'était tellement physique. J'ai cru avoir été percé par une vérité sans le savoir. Diable, que vais-je mettre aujourd'hui? Qui suis-je qui parle à ma place? Nous sommes à Brooklyn quand on se réveille presque en même temps, quelques semaines plus tard, dans le même lit. C'est l'automne et il habite dans une vieille mansion avec d'autres colocataires. On appelle ça co-op, ici. Tout le monde est non-binaire et il faut utiliser le pronom « they ». Je me rapproche de sa nuque, c'est moi qui lui rends visite cette fois-ci. Je lui dis en arabe « sbah al-khair », celui qui salue le soleil, celui qui salue le lever du soleil. Plus tard, en marchant dans la rue, je lui demande si ce n'est pas impoli d'annuler ce qu'on avait prévu de faire le soir avec des amis. Il a répondu « that's alright, you can do it, you know your French ». On a arrêté de baiser, on se parle en anglais parfois. Quand je suis paresseux ou fatigué, je parle en français. Et il me demande ce que je viens de dire. J'ai oublié. Je veux me couper les cheveux. Il me conseille un coiffeur portoricain à quelques blocs. Je ne sais pas tout à fait quelle fleur choisir. La fleuriste, au loin, lit un journal en écoutant la radio. C'est presque imperceptible. À Paris, lui et moi, on se voit. Le soir, je travaille jusqu'à tard. On se retrouve après au parc de la Villette. Et ce texte aurait pu être le récit de cette obsession. Mais quoi? Il dit qu'il veut manger une crêpe parce que les crêpes sont bonnes ici et trop chères là-bas. Le coiffeur est très attentionné. Trois jeunes garçons noirs viennent d'entrer, s'assoient sagement sur une banquette en cuir rouge pour attendre leur tour. Je vais te réciter des poèmes pour voir un peu si ça te fait quelque chose. Il attend toujours son verre d'eau en face de moi. J'essaie en anglais. Some of my hair are growing. Sometimes I feel your skin. Maybe it wasn't the same. Maybe it's coming from the moon. I heard your voice. It was from the heart. I heard your breath. It was from the bottom of your tongue. Some of my hair are now white. Do you feel the time on your tongue? My voice changed. My voice changed. My breath is calmer. My thoughts are coming from your body, your territory, your imaginary country, your white planet. Your lost words. Is this coming from your body, from your tongue, or from your ancestors? Puis je tente en français. Tu prépares le répit, tu prépares le reste. J'ai vu une bagarre dans la rue, dans la rue, dans la rue. Je me suis senti en sécurité dans tes pensées. Puis en anglais à nouveau, mais je ne le trouve pas. En français. En français, non, rien. En arabe, encore moins. Il en récite un de son côté, lui aussi à 25 ans. Maintenant, il en a 27, peut-être 32. Il est aussi en arabe, lui aussi est poète. Je n'arrive plus à le croire. Puis je ne sais pas quoi inventer pour lui plaire. Je sèche et me parle de soleil. Comment ils sont différents entre New York, Paris et Beyrouth. Il me regarde un peu plus. Il a l'air d'apprécier ma présence et les yeux que je pose sur lui. Mon plan fonctionne. Je m'approche de lui pour l'embrasser. Il s'arrête. Mon cœur se perd dans le verre d'eau. Ça aurait pu commencer comme cela, tu ne penses pas? Il est parfois vrai que d'une certaine manière ou de la même façon que je me souvienne un peu de mes années collège, j'avais envie de lui répondre sur MSN, sur cet ordinateur Mac de quelle couleur déjà. Attendre un peu de trouver une manière de dire ce que je voulais voir, que je voulais le voir ou l'attendre en face du collège sans non plus perdre mon alibi ou ma raison cachée. Lui faire comprendre. Lui faire dire des mots qu'il ne voudrait pas. Tester son endurance à mentir et regarder par la fenêtre un bout de la cour de récréation. Dessiner des satellites sur un bout de feuille et inventer un personnage. J'ai tenté de trouver des mots et de parler d'amitié, mais cela ne fonctionne pas comme ça dans les vestiaires après les séances de football. C'est difficile à décrire simplement. Il faudrait plus qu'un message, qu'un dessin, un message électronique écrit en abréviation avec des smileys originaux type. Et il est censé voir, il est censé apparaître un smiley. En cours, je sors un stylo, il est rose, mais il a des possibilités multicolores. Je dis qu'il est à mon amie Kaina et que non, le rose, c'est pas pour les garçons, et le bleu, c'est vraiment cool, ou le vert, dit l'autre. Je suis un peu embarrassé, je change de sujet, je dessine un signe géométrique sur le bois de la table. À la sortie, près du grillage blanc, il y a le pion qui attend depuis le début de la journée. Je sais plus comment il s'appelle, peut-être Nasser ou le bœuf, mais je l'aime bien. C'est un peu un ancien, il est comme nous, juste un peu plus âgé. Il a la peau brune et connaît bien le collège et le quartier. Il nous raconte aussi souvent des histoires, la manière dont le quartier a changé, les différentes migrations après la guerre d'Algérie. Il finit par me demander ce que j'attends, moi, près du grillage blanc. Là, je lui réponds quelque chose, enfin quelqu'un, je ne sais pas. Il n'insiste pas, prend une cigarette et se souvient qu'il ne peut pas l'allumer en face de moi. De la craie tombe doucement sur le sol et on dirait le reste d'un rêve. C'est le lundi matin, j'ai encore envie de dormir. Mon amie est absente, elle a décidé de sécher. Je sèche des feuilles sur le soleil est haut. J'apprends des incantations en arabe pour qu'il m'aime. À ce qui paraît, ça marche vraiment. Un jour, dans la cage d'escalier, j'ai appris que ma mère avait trouvé des ossements sous son lit. C'est à cause d'une sorcière, Chouefa, j'ai entendu. Près de la télévision où passe Buffy contre les vampires, j'écris des mots. L'écran éclaire une partie de mon agenda à la page du dimanche. Son prénom est répété à l'infini, écrit de différentes manières. Parfois, je me sens un peu comme Buffy, incomprise, persuadée d'être unique et hyper badass, prête à sauver le monde entier. Mais très émotionnel quand il s'agit de mecs. Le zipper de ma veste est coincé. Je porte un survêtement noir avec des barres blanches sur le côté. Je me sens confortable, mon casque est vissé à mes oreilles. Je marche en même temps que le rythme des chansons. C'est l'automne, il est l'heure d'hiberner. Je suis sur le chemin pour l'école, pour la maison. On répète ces passages à l'infini. Parfois, c'est une autre personne qui m'accompagne. Ma chambre est partagée avec mon frère et ma sœur. J'ai peu d'intimité. Je passe mon temps dehors. C'est un peu ma vraie maison. Du coup, je traîne jusqu'à tard, tard, tard. Ma mère m'appelle le sauvage. Dehors, je me sens bien, j'y laisse des secrets et je plante un décor où tout se passe comme je le souhaite. Il y a des personnages fictifs derrière les blocs. Parfois, je passe des heures à la bibliothèque municipale. On entend parler d'une apocalypse. C'est 2005, la France est en feu. L'été est lourd, les journées longues. On joue au baseball avec une balle de tennis et des bouts de bois trouvés sur le sol. On joue aux cartes, parfois aux échecs, avec des cailloux et des bouts de verre. Dans ma chambre, j'écris un poème pour lui. Toi, tu es toi et moi, je suis là-bas. On pourrait peut-être être ensemble, mais tu trembles. Je suis seul, c'est un soleil. On s'aime comme des rebelles. Ou un autre que j'ai déchiré ensuite. Je me trouve assez mélo, j'allume la radio dans la voiture, c'est Skyrock qui passe et la route semble infinie vers le centre commercial. Arrivé au milieu des différents magasins dans le hall, j'ai croisé une silhouette. Je dis à ma sœur que je vais peut-être faire un tour là-bas, regarder des nouvelles paires de baskets. Je me balade. Une vendeuse porte un tailleur gris avec des boucles d'oreilles en forme de fraise. Elle me regarde, entrer dans un magasin. Je me suis perdu. Le vigile me surveille au loin. Je fais doucement demi-tour. On me surveille encore. Et j'ai fini par tomber sur lui. On quitte le centre commercial pour aller près de la forêt dans le lac. Des paysages urbains deviennent des forêts et des champs. On grimpe sur un arbre, on se cache sous un pont. Il fait beau, mon survêt se dézippe enfin. On partage un coca, il tend l'oreille. Je lèche le reste de mes envies et de mes rêves. And I'm still here. La première image que j'ai de lui, on s'est rencontré quand la dernière fois? One more time. C'était entre deux futurs, genre notre premier date. On fait un jeu, raconte-moi comme si j'étais quelqu'un d'autre, une autre personne, une autre enveloppe, quelque chose d'autre. Il joue aux video games, il fantasme sur deux jeux de guerre comme on joue du piano. Mon fantasme, c'est de tomber amoureux dans un bar arcade, au milieu de jeux, comme Princesse Nokia dans le clip Joy Dance. Et son pantalon militaire. Des éclairs, des déclarations d'amour, des chutes d'eau où Caetano Veloso chante « One more time ». Il a été touché à l'arcade, du sang séché, il dit, il l'a même pas vu, il m'a même pas vu, il ne voyait même pas d'où le coup venait, ça lui donnait un côté dur, marlou, belle gueule, vendu, chétane. Il est tellement scandale, one more time, ça y est, je suis dans le clip, il y a des Pokémon et des Rose qui brillent, qui se transforment en gif, je joue à Street Fighter, j'ai survécu, plein d'héros super forts, je me sens un peu teenager, c'est parfait comme ça, la clim gronde un peu fort, mon cœur est une porte, le sol est en moquette, mon cœur est une fête, la salle est sombre. On ne sait même plus quelle heure il est, one more time, dans un rêve, il décide de marcher dans la rue, près de la Casbah, je lui dis que ce pays n'est pas mon pays, je lui dis que je peux voir l'avenir ou l'absence, il décide de parler en arabe, un arabe dangereux, on entend le muezzin et les chats qui se cachent. On se dit que ce serait peut-être bien d'être un chat. T'es fou, toi, je suis un chien, avec un chien, moi, juste une chienne, one more time. Il me parle d'une vision pendant qu'il jouait, ou plutôt d'un autre rêve, connecté aux pyramides ou des pyromanes sur les écrans, encore un personnage qui prend feu, je me suis réveillé, un plan sur saut, je me suis senti protégé par les dieux, de quel message tu parles, la manière dont il s'est blessé, il a peut-être trop touché le sol. En baisant le goudron, le soleil, il fait chaud, one more time. Je cherche de la monnaie dans ma poche, je trouve une ou deux fleurs un peu cabossées, un peu meurtries, un dernier miracle, one more time. Les fleurs n'arrangeaient rien, il reste à respirer à l'envers, tu te sens si seul sous cette peau. One more time. Il porte un t-shirt sur lequel est écrit « I need time, I need space. » Je pense à respirer fort près de son oreille, près de la radio, près de son cou. Il semble ailleurs et tardif. Il a compris les machakils. Je suis à court de thunes, à court d'idées pour séduire. C'est con, c'est rien. Il dit qu'il n'est pas d'ici. Je parle dans une langue étrangère, la langue du reste. That's okay. One more time. Il attrape la mienne de l'angle, la décortique, la baisse comme un dragon de feu, comme Goupix, une partie dans ma bouche. One more time, tu perds ton temps, je perds ma partie de jeu. C'est vrai que les autres nous regardaient étranges à des années-lumière, des taxis et des galaxies. Des taxis et des galaxies. Oh, j'aurais pas cru, t'as vu, moi non plus, j'aurais pas cru. En fait, on se parle dans des langues secrètes, la mienne, la sienne, nos langues, nos oublis, nos terres de feu, une langue marron, une langue en marron, une langue brune ou marron, une langue de marron, rond, brune, autre en espagnol, one more time en arabe, one more time en créole, one more time en verlan, one more time, one more time, one more time en argot, en one more time tu saoules, one more time je... Then, one more time, t'es parti. One more time, tu me souffres. One more time, je t'aime. One more time, more, 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 et t'es parti. One more time.
Lecture par Théo Robin Langlois.
Je vais lire quelques extraits d'un blog que je fais. Enfin, tout est disponible en ligne. C'est un peu des textes qui sont pas forcément finis, mais que je mets en page. Enfin, voilà, je vais commencer. Ça s'appelle « Demain, j'arrête pas .net ». Donc, le premier, c'est « New Taipei City ». Je prends mon vélo. J'ai repéré sur Google Maps que Luzhou était juste en face de Beitou, où j'habite. Ça m'évitera de repasser par le centre avec le métro. Je commence à pédaler dans les rues de New Taipei City. Je ne sais pas lire le chinois. Il y a des signes au sol. Je prends une côte un peu difficile, j'accélère. Au sommet, je me rends compte qu'il n'y a plus du tout de scooters autour de moi. Pourtant, si nombreux en bas. Et les voitures vont très très vite. Je suis sur la highway, mon corps devient froid. Je me cale bien sûr sur la droite et je ne perds pas le rythme. Pour sortir le plus rapidement possible. En contrebas, à une cinquantaine de mètres, il y a une sorte de voie verte pour que les piétons et les vélos circulent librement. Je les envie. Je ne les regarde pas trop pour continuer à avancer. Les voitures me klaxonnent. C'est long, c'est en pente. Mais mon corps reste froid. J'arrive à sortir. Enfin, je ne prendrai plus jamais le vélo à New Taipei City. Porno métro. Je suis dans le métro. Pas de chauffeur. La ligne est automatisée. Un couple entre, sexy as hell. Je me dis que ça me dérangerait pas de les voir baiser. Pause. C'est ça le porno. Des gens professionnels du sexe qui font attention à leur corps. Et le reste de la société regarde en oubliant leur corps. Mesquina. Je rentre chez WAM, je prends le tram. Je suis un peu bourré. Je passe mon pass. Je m'assois. Je ressors. Je tombe sur trois types qui ont l'air de sortir du bar. Ce sont des contrôleurs, en fait. Ils me demandent mon pass. Je le donne. Apparemment, il n'est pas validé. Je leur dois 5 €. Je proteste. Il dit « Ah si !» Je le regarde d'un air méprisant. Je dis, bon, c'est la machine qui le dit. Il tente une phrase, mais bégaye comme un bolos. Je lui lâche 5 € en le regardant de haut, et je descends à l'arrêt pour sauver le reste du tram en les entraînant avec moi. J'ai un peu le seum, quand même. J'ai envie d'appeler la hiérarchie avec leur matricule pour expliquer qu'ils étaient à moitié bourrés, quand même. Je me dis, Mesquina, ton cœur est trop haut pour ça. Je respire. Peut-être je paye pas mon pass le mois prochain. H. C'est la fin du match. Mon corps est fatigué. J'arrive trop haut pour chercher le ballon. Ma tête percute celle d'un adversaire. Il lâche le ballon. Je vérifie qu'il n'a pas perdu connaissance et je continue à jouer. Quand je cours, je regarde vers le bas et je me rends compte que du rouge très rouge coule sur mes mains. L'arbitre me sort. Des joueurs adverses me lancent une gourde pour que je me nettoie. Elle fait un bel arc de cercle et atterrit dans mes mains. L'herbe est synthétique. Je lève la tête vers le ciel et je m'asperge le visage d'eau fraîche. On me fait un bandeau. J'ai perdu beaucoup de sang. Je me sens faible. Mon frère m'amène à l'hôpital. Je m'allonge. Le médecin fait 4 points de suture sans anesthésie. Il les fait très bien. Il serre la peau qui a tendance à s'écarter au niveau du front. Je pense aux plaques 5 mm de contreplaqué que j'ai découpées et assemblées bien serrées toute la semaine pour l'artiste Cher Ndiaye à Versailles. Le corps humain est une mécanique. Avec des amis, on essaye d'interpréter ce qui arrive à notre corps, comme de la divination. Dois-je arrêter le rugby ? Je ne crois pas, car comme le dit tonton Rimka, ma deuxième mère, c'est la violence. Mais je sens que je vis dans une société qui se fragmente. Abdel me dit « Elle est nulle, Marine Le Pen. Si tu votes pour elle, je mets ma main au broyeur. » Marco me dit « C'est l'échec de la social-démocratie, ces élections. La société explose comme la peau de mon front. Il faudrait peut-être la recoudre différemment. » Pompidou Business. Quand je travaillais à Pompidou, il y avait un vigile très sympa qui, en plus de son activité de vigile, vendait des statues africaines sur son smartphone. Pendant son service, un jour, il avait menacé de quitter l'entreprise de vigile car on ne laissait pas prendre sa pause du midi quand il le désirait. Il avait besoin de manger tard, sinon ça lui donnait envie de dormir. Chihuahua. Tous les soirs, je rêve. Je rêve qu'une personne m'attaque à l'aide de son chien. C'est toujours quelqu'un que je connais, la personne, et qui m'est antipathique. Mais elle change tous les jours. Seul le chien reste le même. C'est un petit chien, tout petit, très agressif. Un chien avec une tête triangulaire et un tout petit museau. Il a des poils si longs que seule sa tête émerge derrière son tout petit corps de traître. Une sorte de chihuahua. Il est très petit, mais me tue à chaque fois. Il me tue car il a des dents très spéciales. Il a un grills par-dessus ses dents, un grills en argent. Chacune de ses dents est sculptée très finement. Un vrai travail d'orfèvre. Chacune de ses dents est une sorte de plume avec laquelle on peut écrire. Sauf que dans ses dents-plumes en argent, il y a un poison qui te foudroie en moins de 2 minutes. Et je me réveille. Plan de bureau. Je suis dans un appart parisien rempli de parisiens très gentils. La soirée est très gentille, il y a de la musique très gentille. Le dealer passe livré de la MD très gentille. Lui aussi est très gentil d'ailleurs. Bref, je m'ennuie. J'imagine être embauché dans une société de livraison de plantes de bureau. On ferait des chaînes humaines où on se lancerait des plantes de bureau dans des immeubles en verre depuis des camions. On aurait des combinaisons très belles. Mais attention, on serait fiers d'être passeur de plantes de bureau. Ce serait super technique en fait. Il faudrait faire des passes de 9 mètres minimum pour être embauché dans l'entreprise. Les lancer en les faisant vriller en l'air pour qu'elles aillent vite et ne perdent pas de terre. Une main en dessous pour la force, une main au-dessus pour la direction, et au moment de lancer, on fait tourner le pot. On les rattraperait en préparant ses deux mains, en les mettant en avant et en ramenant la plante vers sa poitrine. En fait, je suis retourné trop en arrière parce que c'est dans l'ordre chronologique. J'assume. Elle vient me chercher à la résidence étudiante avec des croissants. On parle de son amie que je kiffe. Elle me dissuade. On va au centre commercial. Il est grand. On se balade dans les allées artificielles. Elle m'emmène chez Undies. Elle m'achète des caleçons. Ce n'est que quelques années plus tard que je réalise que c'était une sorte d'acte sexuel. C'est fini pour le blog. Et je vais vous lire un texte que je suis en train d'écrire en ce moment qui est plus long. Ça s'appelle « N'oublie pas ton corps dans la bulle ». N'oublie pas ton corps dans la bulle. Jusqu'où s'arrête la bulle? Quel organe? Quel logiciel? Quelle cellule n'a-t-elle pas encore été infectée? Le cocktail Molotov est rentré dans mon cœur, la mèche trempe dans mon corps et sort à l'air libre. J'essaye une dernière fois de retenir le langage dans le creux de mes mains, mais il s'échappe par les jointures. Alors, je fais rouler le briquet entre mes doigts, j'allume. Un mélange de chair, de sang et d'os s'envole. Des rayons verts et violets s'échappent de la déflagration. Les planètes sont alignées. Mon corps est dispersé aux quatre coins de la bulle. L'accumulation de mes taffes m'ont ventilé. Le langage qui coulait entre mes mains pour m'échapper est démembré. Je pars à la recherche des bouts pour les collectionner. Craye les ongles. Il est 2h du matin. La route est déserte. Les lumières artificielles font des reflets rouges et bleus sur la nuit et les herbes sur le bas-côté. Je m'arrête au feu rouge. Les deux mains sur le volant, je fixe mes ongles. J'ai trop bu. Je m'endors au feu rouge. Des heures passent. Les flics finissent par passer. Je perds mon permis. Où est la limite de la bulle? Est-ce que je l'ai rencontré ce soir-là, le bout de mes ongles? Livry la rétine. Après quelques changements de bus et le voyage avec la banlieue qui rentre du travail, je descends du tram. Je vais garder ma nièce. Quand elle est née, je voulais aider ma sœur à la garder des semaines. Mais je ne l'ai fait que 2 jours. Problème de timing. Dans mon boulot, on m'appelle. Paf, un rendez-vous, c'est la règle. Le serpent ondule dans ma vie et m'empêche de voir ma nièce grandir comme je le voudrais. Le serpent appelle, pourtant je n'ai jamais été très fort à Snake, le jeu sur Nokia 3310. Je n'arrive pas à nourrir le serpent tant que ça quand il accélère. Mais le jeu recommence tous les jours et le serpent circule dans mon corps. On le voit à travers ma rétine. Tiens la langue. On va à Bellep, le centre commercial le plus fade d'Île-de-France. On prend le 285, le tramway n'est pas encore construit. On a 15 ans. La RN7 défile, les avions décollent à Orly, je les regarde et rêve d'être dedans. On arrive à Thiers, je l'accompagne faire les boutiques. Une bande de mecs la siffle, elle les insulte parce qu'en plus c'est le ramdam. Elle les cheap. J'ai plus de salive, du coup je le fais pas. Moi je suis pas très costaud, alors j'ai peur. La sécurité arrive, on va dans une autre boutique, je rencontre un autre pote. Il bosse ici, dans le management, il parle de win-win, ou comment le langage de la bulle a pénétré certains de mes friends et se fait sodomiser par la langue, les acronymes, les mots en pro. Proactif, professionnel, projet. Ils sont rentrés par son anus et parlent à sa place. Je reste bloqué sur ses yeux vitreux et son enthousiasme zombie. Il me dit qu'on devrait faire du win-win tous les deux. On va y gagner un max. Mais ce que le win-win cache sous ses algorithmes, c'est ce qu'on perd en vrai. Moi, je veux perdre, je ne veux pas tout le temps gagner, je veux oublier, ne pas perdre pour apprendre de ses erreurs comme une intelligence artificielle, mais perdre vraiment, y laisser un bout de sa langue, vieillir, mourir, vivre. La bulle ne détruit pas tes rêves, elle les achète et les rend immortels. Alors qu'est-ce qu'il me plaît dans ce centre commercial? C'est les murs délabrés, les nids de poules de la 86 dans lesquels j'ai craché mon Opel, les mecs et les nanas qui traînent, les embrouilles, l'ennui, le mec dans le bus qui boit trop de vin rouge et fait tomber sa bouteille et ses clés, les jeunes qui s'aspergent de coca et s'insultent parce que ça colle. L'autiste super bien sapé qui porte le sac de sa daronne en balançant sa tête d'avant en arrière, les couples qui se pécho. Win-win, c'est le chant du cygne de la bulle. La chanson géniale d'un bébé dans un corps d'adulte, un capricieux sans scrupules. Il chante « Bande de malpropre » avec Franck Vincent sur du zouk parce qu'il a perdu son procès au prud'homme contre ses anciens employés pour un restaurant à Thiers-la-Longue. Voilà. Bon, là c'est un texte plus vieux. Voilà. N doit se rendre à Pôle emploi. Pour cela, il doit prendre le bus. Il n'a plus d'abonnement depuis qu'il a fini ses études, mais il a une stratégie secrète. N collectionne les vieux tickets utilisés et quand un contrôleur lui demande le sien, il en prend une poignée dans sa poche et les lui donne en vrac. Au bout du 10e ticket, le contrôleur lâche en général l'affaire en disant « Vous avez de la chance pour cette fois-là, jeune homme. » Mais N s'en sort toujours grâce à son air perdu d'avance. Dans le bus, il observe l'affrontement des « avec les vitres, le jeu des formes cotonneuses et des lignes ancrées avec énergie dans un verre pas toujours transparent. Cette fois, il ne se fait pas contrôler, mais son premier voisin lâche. Ces putains de « nous empêchent de voir le paysage. Choqué, N change de place dans le bus. N arrive à Pôle emploi, légèrement en retard, car avant de rentrer, il observe le jeu des « oh ». Avec les façades du bâtiment, le ciel devient vertical. Selon l'orientation des vitres, certains « oh » se répètent, d'autres subissent une symétrie axiale ou centrale, la géométrie appliquée au « oh » grâce au bureau d'affaires. Puis N est concentré sur l'étude des faux marbres de la salle d'attente. Oh. À chaque fois qu'il voit du marbre, N ne peut s'empêcher de penser à ce peint par Frangelico, qu'il trouve fascinant à cause de la liberté abstraite qui s'en dégage. D'ailleurs, quand il pense à ses fonds colorés, N pense plus au « 1 », car N pense que les marbres sont au « 1 », ce qu'est l'éclairage électrique aux bougies, une esthétique sans mouvement, trop parfaite, trop belle. Du coup, N est vraiment en retard, ce que son conseiller lui fait remarquer, même s'il apprécie l'effort vestimentaire consenti par N. Au moment où N débarque dans le bureau, son conseiller est en train de faire des coloriages pour enfants. Il en est au crayon de couleur bleu. Son conseiller lui explique qu'à force de refuser les offres d'emploi, N va finir par ne plus toucher le RSA. N lui explique qu'être payé à faire des photocopies après 5 ans d'études ou faire un stage nécessitant d'être polyglotte pour au final toucher un tiers du SMIC ne l'intéresse pas. Son conseiller insiste et passe au crayon violet. N se met en tête de lui expliquer pourquoi il ne travaille pas. Un ami m'a un jour confié qu'il pensait que le monde serait en paix s'il n'y avait plus de frustration sexuelle. Je ne crois pas trop en cette théorie. D'une part parce que l'on est tous pourvus d'une main pour se branler. D'autre part parce que je trouve le sexe répétitif relativement à l'activité qui me préoccupe. Regardez les « oh ». A-t-on vu déjà de « oh, jumeaux » Donc pour moi, le monde serait en paix si au lieu de penser, courir, marcher, travailler, s'investir, vouloir, séduire, conquérir, évoluer, les hommes se contentaient de regarder les « oh ». Son conseiller s'énerve, casse son crayon rouge et vire N en criant qu'il ne le verra plus car les incapables comme lui sont ceux qui font la faiblesse de notre pays. Oh. Maudit pelleteux de oh. En sortant, N tombe nez à nez avec une publicité pour l'auto-entrepreneuriat. N se met à penser qu'il pourrait vendre les oh, au lieu de les regarder. Un grand magasin à ciel ouvert. Il est beau mon oh. Il est beau. Combien le mètre cube de oh. Est-ce qu'il coûterait plus cher selon leur géolocalisation? Une inflation du prix du oh. Une crise du oh. Il lui sembla qu'il pouvait fracasser le ciel d'un monstrueux coup de poing, en arracher Dieu pour le traîner à travers ses oh. Lance George Buchner. Après bon, en fait c'est une histoire où on suit N pendant longtemps et puis hein, il est poursuivi par un mystérieux inspecteur qui s'appelle Inspecteur P. Et en fait, dans sa voiture, il y a toujours la même chanson. Puis je vais finir en la chantant. Wanna be a baller, shot caller, 20 lames de pouce sur l'impala, a getting de la plan posée ce soir, swisher roulé serré, obtenu pulvérisé, pareil. J'ai frappé le highway, faire de l'argent de la voix, fly, mais doit bien avoir un moyen better, une meilleure façon, mieux, ouais, oh. Merci.